Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold on, everybody. Here it comes.
Bien. Spot the, le podcast du gravel et du bikepacking. Je sature. Attends, je baisse un petit peu le volume et je reprends. Spot the, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 190. Ici Richard Delhomme. Dans le podcast, il y a un exercice que j'aime tout particulièrement. C'est de recevoir un invité hyper calé dans un sujet que je ne connais absolument pas. Non seulement cela m'évite une longue, fastidieuse et probablement vaine préparation, mais surtout c'est l'occasion d'apprendre quelque chose de la bouche même d'un expert. Même si je ne sais pas exactement ce que fait Xavier, je le connais et le suis depuis 2 ans et demi puisque nous avons partagé quelques kilomètres lors de la première édition de la Gravel of Legend à Angers, quand c'était encore intéressant d'y aller. Depuis, je regarde ses péripéties avec un mélange d'admiration et de sidération. Et pour le plaisir des oreilles, laissez-moi vous présenter Xavier. Alors j'ai enlevé les quelques trucs de ton CV sur LinkedIn, hein, tu t'inquiètes pas. Étudiant à l'université Savoie-Mont-Blanc pour un projet de recherche portant sur le métier de guide de haute montagne et le changement climatique en lien avec le syndicat national des guides de haute montagne. Guide de montagne. Co-fondateur de Ressources SMB, spécialiste de l'apprentissage actif, aspirant guide de haute montagne, moniteur VTT, moniteur d'escalade, ancien membre de l'équipe de France d'escalade sur glace, je suis ouvreur international en escalade sur glace. Xavier, bienvenue.
Eh ben merci, beaucoup pour l'accueil. Et si tu veux rajouter une ligne au CV, à partir d'octobre, je serai doctorant.
Écoute, c'est bien normal depuis.
Excuse-moi, il y a un décalage. Je disais, si tu veux rajouter une ligne, je serai doctorant à partir d'octobre sur un projet de thèse portant sur l'alpinisme et les nouveaux risques glaciaires.
Ouais, mais ça, je ne l'ai pas noté parce que ça m'a paru quand même assez évident. En fait, je me dis, moniteur d'escalade, moniteur VTT, la moindre des choses, c'est qu'il ait quand même un projet de doctorat, sinon ça fait branquignol quand même.
C'est un peu le principe.
Bon, alors, tout de même. Lors de l'épisode avec Julie et Laurie, j'ai un petit peu vendu la mèche. Tu ne le sais pas encore parce que en fait, cet épisode, je l'ai enregistré hier soir et il n'est pas encore en ligne, mais je me projette un petit peu dans l'avenir quand même, comme toi. J'ai vendu un petit peu la mèche et j'ai parlé de toi en parlant notamment de cette petite excursion dans le Verdon pour aller monter une voie et tu y es allé à vélo. Donc il y avait 350 km. Rien d'exceptionnel en soi pour un athlète de ton calibre. Tu y es allé avec ton pote Simon. Attends, je reprends son nom parce que tout à l'heure, en plus, je t'ai demandé la prononciation correcte. Welfringer. Donc voilà, vous êtes partis tous les deux dans le Verdon à vélo. 350 km pour grimper la voie. Tom et Jury, qui est une 8B+. Est-ce correct?
C'est exactement ça. C'est tout à fait correct.
Alors, pourquoi y aller à vélo? Vous pouvez pas faire comme tout le monde et prendre votre bagnole?
Parce que déjà, on aime beaucoup faire du vélo, les deux, tant l'un que l'autre. Et l'idée, c'était justement de pouvoir avoir un petit projet en partant à la maison en vélo. Moi, ça fait un moment que je fais ça. Simon, lui, c'est un très fort grimpeur, il est encore meilleur que moi. Et il se met petit à petit au vélo. Et ça faisait un moment justement que je le tannais en lui disant « Mais arrête de faire que de l'escalade et viens, on va faire du vélo ». Et du coup, c'est de là qu'est partie cette idée d'aller grimper quelque part en vélo. À la base, on voulait aller en montagne, on voulait aller faire une voie en face nord du Cervin. Et en fait, 3 jours plus tôt, il s'est mis à neiger super bas en altitude. Et du coup, on pouvait difficilement rejoindre Zermatt en vélo dans des conditions correctes. Donc à partir de là, on a trouvé des plans A, des plans B, des plans C pour au final se décider d'aller dans le Verdon. À la base, on devait faire plus de kilomètres. On devait partir de Grenoble directement en vélo. Et là où habite Simon. Moi, j'habite à Albertville, pas très loin. Mais l'idée, c'était de partir de là. Sauf que en fait, il y a neigé à 1200 mètres d'altitude dans la veille du départ. Et il fallait qu'on passe par la Mure, là, qui est à 1400 mètres d'altitude et dans le dévolu. Et du coup, on a eu un peu la démotivation de se mettre une journée. Pour le coup, là, ça faisait 600 bornes l'aller-retour et de se mettre une journée à 300 bornes de vélo en passant dans la neige. On a été moyennement motivés.
Alors que c'est quelque chose que vous feriez aisément sur vos pieds en pleine montagne. Mais étonnamment, à vélo, c'est tout de suite beaucoup plus pénible.
Ouais, en vélo de route, la neige, c'est pas très très agréable hein, quand même. Hein, surtout quand tu fais de la longue distance. C'est plutôt le froid parce qu'il pleuvait encore, il neigeotait, il pleuvait le matin même. Et du coup, démarrer comme ça directement sous la pluie, on s'est dit là, on va se cramer complet pour les jours suivants, quoi.
Et pourquoi y aller à vélo ?
Eh ben, l'idée d'un voyage un peu plus complet, en fait, c'est en soi juste juste grimper cette voie, c'est déjà super chouette. Mais là, du coup, ça fait une belle balade. Ça fait au lieu d'y aller un peu rapidement et puis de rester là-bas pendant 3 jours, là, ça faisait 3 jours de balade où on faisait du coup premier jour l'approche, le deuxième jour on allait grimper. Et le troisième jour, on rentrait tranquillement à la maison. Donc, ça faisait un beau petit voyage au milieu de tout ça. Et c'était plutôt cette dimension-là de partir d'un point A, aller rejoindre cette voie et revenir tranquillement à ce point A en prenant le temps. C'est rigolo parce que ça modifie complètement la perception qu'on a. C'est des endroits où on a souvent été dans le Verdon quand même. Et ça modifie complètement la perception en fait que tu as au global du voyage. Où du coup, tu es plus du tout dans le même rapport. La voiture, ça coupe un peu la distance, ça coupe un peu le voyage, ça coupe les kilomètres. Alors que justement, bah, quand tu as le vélo, tu reprends un peu tout et tu as toutes les étapes petit à petit, tout plein de points de passage. Et bah, ça devient des lieux que tu as le temps d'apprécier et de voir. Et du coup, ça te modifie complètement la perception de ces déplacements-là. On passe en plus à chaque fois par d'autres sites d'escalade où on a déjà été grimpé, qu'on a déjà connu. Ça nous rappelle des histoires. Et il y a toute une espèce de petite magie qui se met autour de ça. Tu croises des gens, tu discutes, tu rencontres. Et c'est vrai que de ce côté-là du voyage à vélo, c'est vraiment ouais, un truc qui est excellent, quoi. J'avais déjà fait ça une fois en partant chez moi. Excuse-moi. Ouais, je disais, j'avais déjà fait ça une fois en partant depuis chez moi.
Vas-y, Xavier.
J'avais fait ça en partant d'Albertville et j'étais allé grimper à la falaise de Bioux. Et du coup, j'étais passé par le Mont Ventoux. Donc, j'étais parti d'Albertville et j'avais grimpé le Ventoux. Et j'étais redescendu de l'autre côté, et passé saut et rejoint la falaise de Bioux, et j'avais été grimper 2 jours là-bas. Et c'était déjà un truc qui m'avait bien plu au niveau de la dimension du voyage et du plaisir. Là, ça faisait 360 bornes et un truc comme un peu moins de 10 000 de dénive. C'était un gros tour du Mont Blanc, quoi. Mais ça m'avait déjà bien plu l'idée de voir un peu le déplacement et voir ce qu'il y a sur la route pour aller rejoindre tel ou tel endroit. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui change un peu, ouais.
Tu fais un petit carnet de voyage de tes trucs comme ça, parce que là en plus tu me dis on part d'un endroit, d'un point A à un point B, sur la route on retrouve des endroits où on a grimpé, ça nous rappelle plein de souvenirs et on se raconte plein d'histoires, ça pourrait donner lieu à un petit carnet quand même, un petit carnet de souvenirs ou un petit carnet d'escalade.
Alors moi j'aime bien écrire, ouais, donc j'en écris un petit peu des bouts de récits et j'écris un peu des choses comme ça. J'ai pas un carnet qui est officiellement fait et net, mais j'ai 2-3 trucs sur mon ordinateur là qui traînent, que j'écris à la volée après derrière et qui sont complétés comme ça, ouais, j'en ai un petit peu.
Quand tu pars, là par exemple pour aller dans le Verdon, je connais rien à l'escalade, hein, donc tu excuses mes questions bêtes ou naïves. Ça veut dire que vous emmenez tout le bazar avec vous, les cordes, les mousquetons, la cafetière?
Alors la cafetière on ne la prend pas, en général on se débrouille pour boire le café dans des bistrots locaux et puis aller boire le café à droite à gauche. Là ouais, on avait pris de quoi être en autonomie, donc on avait de quoi dormir, un duvet, un petit matelas, on avait un petit peu à manger quand même, un petit réchaud et puis un petit peu à manger. On n'était pas sûr de trouver de quoi manger dans les villages là sur place vu qu'on était un peu hors saison et que tout était un peu fermé. Et après, on prend ouais tout le matos d'escalade avec nous. Du coup, là, faut pas mal optimiser le matériel et être assez concis et assez efficace. Du coup, dans ces cas-là, moi, j'ai une sacoche de sel et une sacoche de guidon là, des Ortlieb là, qui font chacune 10 litres. Et après, j'ai une sacoche, une full frame là, de chez Revelate Design, qui pareil fait une dizaine de litres. Et du coup, après, c'est un peu le jeu de Tetris de tout organiser, tout ranger et tout bien resserrer là-dedans, quoi. C'est le matos que j'avais utilisé quand j'avais fait la Divide et ça marchait pas trop mal.
La quoi ?
La French Divide. J'avais pas complètement fait la French Divide, mais un bout de la Divide.
D'accord. C'est un petit peu comme pour nous à vélo. Quand tu pars, tout va bien. Je suppose que tout est bien rangé. Mais quand tu rentres, est-ce que c'est aussi facile de tout remettre dans les sacoches ?
C'est l'éternel problème des sacoches. C'est toujours très facile. Même un sac à dos, c'est toujours très facile à faire à la maison. Et après, quand tu es sur le terrain, c'est tout le temps beaucoup plus compliqué à refaire. Donc, on a réadapté, remodifié, rebougé les choses et on a réussi à peu près tout mettre. Ouais. Mais c'était pas toujours très facile.
Alors, on va parler entre guillemets un petit peu plus sérieusement. Malgré tout, ce truc dans le Verdon, donc ça a donné lieu à un petit article ou en tout cas à un petit texte qui a été publié dans une newsletter dont le nom m'échappe et que je vais retrouver dans un très court instant. Et qui s'appelle /future et qui est faite par un de tes amis, je suppose. Et la thématique, c'était surtout les rêves et la réalité. C'est-à-dire que toi, tu es alpiniste, tu es ouvreur sur glace et manifestement, la glace n'aime pas le réchauffement climatique. Ce qui signifie que ta pratique s'en retrouve grandement chamboulée. Donc, comment ta réflexion, c'était comment concilier rêve et réalité ? Et je te laisse la parole maintenant.
Ben en fait, ça, c'est une thématique moi que j'aborde pas mal. Du coup, de par mes sujets de recherche, où je travaille un peu sur l'impact du changement climatique sur notamment la pratique de l'alpinisme. Du coup, ça, je travaille là-dessus sur, on va dire, deux volets différents. C'est d'un côté un volet, qu'est-ce qui se passe de manière physique dans les milieux de haute montagne? Comment est-ce qu'ils sont impactés par le changement climatique? Ce qui change en montagne, en gros. Est-ce qu'il y a les glaciers qui fondent? Est-ce qu'il y a plus de chutes de pierres? Est-ce qu'il y en a moins? Comment ça évolue? Et la deuxième chose sur laquelle je travaille, c'est comment est-ce que nos sociétés humaines et comment est-ce qu'on adapte notre pratique justement par rapport à ça? Donc là, c'est sur un sujet qui, entre guillemets, est assez facile dans le sens où il y a peu d'enjeux, ça s'appelle l'alpinisme, mais on pourrait extrapoler ce sujet-là à nos sociétés humaines, aux manières générales, en disant, il y a des milieux qui sont en train d'évoluer, il y a des choses qui sont en train de changer au milieu de tout ça, comment est-ce qu'on change un peu par rapport à tout ça, comment est-ce qu'on adapte nos pratiques, comment est-ce qu'on change nos manières de percevoir un peu, peut-être nos sociétés, tout ça, dans un contexte de changement climatique. Du coup, par rapport à ça, je fais pas mal d'interventions assez régulièrement autour de ces questions-là, où je viens un peu justement échanger, présenter déjà les résultats de mes recherches, et après, assez souvent, ça se suit avec des échanges et des débats, où les questions reviennent assez souvent de « oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, mais on peut pas forcément changer ? Oui, mais est-ce que ça, par exemple, est-ce que j'ai le droit de continuer à prendre l'avion ? Est-ce que j'ai le droit de tout ça ?» Et du coup, c'était un peu une période, là, quand j'ai fait ça, où je me questionnais pas mal par rapport à toutes ces questions, et je me disais « on a des réponses en disant, non, mais c'est pas à nous de vous dire est-ce que vous pouvez prendre l'avion ou pas prendre. Par contre, ça a un impact, forcément. Et du coup, il y a un peu toute une réflexion par rapport à ça. Et pendant ces 3 jours de vélo, j'ai pas mal pris de temps un peu pour réfléchir et pour penser en étant en train de pédaler. J'aime bien faire ça, je fais ça assez souvent. Et du coup, la question, c'était un peu ça. C'est quelles limites est-ce qu'on a dans nos activités? Pourquoi peut-être est-ce que je rêve à des voyages lointains? Ou pourquoi est-ce que je me dis, il faut que je fasse en vélo plutôt que faire en voiture? Est-ce que ça a une dimension écologique? Est-ce que ça a un impact? Et c'est là qu'est revenue cette réflexion justement sur les limites un peu de ce que l'on fait et réfléchir un peu dans une vision, soutenable et durable dans le temps pour pouvoir justement continuer à pratiquer un peu de la même manière en limitant donc son impact. Et c'était un peu ça la question, c'était plutôt que dire vous avez le droit, on a le droit de faire ça ou on a le droit de faire ça. C'est si chacun rentre dans une pratique réfléchie et commence à se poser un peu des questions sur est-ce que en faisant ça, j'impacte beaucoup, pas beaucoup, moyennement la pratique, qu'est-ce que ça m'amène, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, et qu'on rentre un peu dans cette démarche de réflexion, je pense qu'on peut réussir à avoir des pratiques qui sont plus vertueuses.
Donc si je résume, tu n'es pas un moralisateur qui nous dit ce qu'on doit faire, mais plutôt un chercheur qui nous incite à réfléchir sur nos pratiques ou, en gros, comment faire comme avant, sans trop changer, mais sans que ça ait trop d'impact, et tout en modifiant légèrement quand même l'impact, ou en modifiant en profondeur l'impact que ça a à avoir. Faire la même chose, mais pas tout à fait pareil.
Ben, on voit bien que c'est un peu tout l'enjeu justement de cette transition écologique. C'est si on continue à faire de la même manière exactement, on se rend compte que d'ici une cinquantaine ou une soixantaine d'années, il y aura tellement des bouleversements tellement importants que malheureusement, je pense que par la force des choses, on sera contraint à changer. Si par contre, on arrive à se dire, on modifie un peu nos trucs, on modifie un peu nos habitudes, on modifie un peu nos façons de faire, et on essaie justement d'avoir moins d'impact sur à travers toutes nos activités, on peut réussir justement à encore inverser un peu la tendance, il ne va pas falloir trop traîner, mais on peut le faire, et à continuer justement à garder des modèles de société et des modèles de pratique, par exemple les loisirs comme on en fait, hein, en font partie, qui sont justement encore réalistes et réalisables. Donc c'est un peu justement tout ça l'enjeu de ce truc, c'est pas de faire la morale, parce qu'on mobilisera pas les gens en faisant la morale en fait, c'est pas en disant, et puis moi je serais mal placé, c'est tellement complexe ces questions-là, je serais bien mal placé pour dire aux gens, il faut plus que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça, c'est tellement complexe et varié que c'est pas mon rôle, mais par contre c'est vrai que de se dire, si chacun fait dans son coin cette démarche-là, on peut réussir à faire déjà des grands changements, sans aborder les questions dans une complexité absolue, hein. Ça peut s'aborder de manière très très simple. Quel impact j'ai ? Est-ce que j'estime que cet impact est nécessaire pour moi ? Est-ce qu'il me fait vraiment du bien ? Est-ce que j'en tire quelque chose de positif ? Et sinon, comment est-ce que je peux le modifier et le changer un peu pour réussir à être dans quelque chose qui me motive et qui me donne envie d'intervenir ? Et là, je trouve qu'on rentre dans quelque chose de très positif pour une transition écologique. Ouais.
Donc, ce qui signifie que tu n'es pas dans ce discours de arrêter de prendre l'avion, par exemple, mais plutôt comment s'adapter, vraiment. Toi, par exemple, comment tu vas adapter finalement ? Toi, parce que là, c'est quand même toi aujourd'hui la vedette, comment tu adaptes ta pratique pour continuer à grimper, continuer à aller explorer, continuer à faire des expéditions, tout en adaptant justement ton impact et en continuant à avoir cette réflexion ?
Le principe de l'expédition, c'est de se dire, en fait, le gros intérêt de l'expédition, c'est tu vas partir, sortir de ton cadre pendant un mois et demi. Tu vas rentrer un peu dans un truc complètement différent, dans une bulle à part. Et puis, tu vas être concentré que sur le fait de faire une activité ou de vivre une aventure exceptionnelle. Et tu te rends compte, en fait, à partir du moment où tu sors un peu de ce schéma de réflexion et puis que tu rentres dans le fait de te dire, par exemple, je sors de chez moi, je prends mon vélo et je vais, traverser la France en VTT, tu peux te mettre pendant une semaine, 10 jours, dans un cadre à peu près aussi exotique et aussi dépaysant que ça. Donc, plutôt que me dire, je fais peut-être une ou deux expés par an comme on pouvait faire avant et puis partir dans tous les sens. Moi, j'ai jamais fait ça parce que j'avais pas les moyens, mais certains collègues font ça. Se dire je fais peut-être un voyage lointain tous les 4-5 ans, une fois de temps en temps en gros, et le reste du temps, je vais vivre des aventures autour de la maison et j'essaie de réenchanter un peu ce truc-là et de me dire que ça me fait aussi plaisir de faire ce truc autour de la maison que d'aller à l'autre bout du monde en prenant l'avion et en allant chercher quelque chose que je trouverai ou que je trouverai pas forcément, mais sans certitude. Donc c'est plutôt un peu dans ce schéma mental, essayer de se mettre là-dedans, de se dire, si jamais il y a un truc qui me tient trop à cœur, j'ai envie d'aller, grimper à tel endroit et découvrir une nouvelle culture, découvrir d'autres personnes, vivre des choses différentes, je peux y aller. Par contre, j'essaie de pas le faire forcément tous les ans, et puis j'essaie de trouver des trucs qui me plaisent autour de chez moi et qui sont un peu en adéquation avec ce que je pense.
En fait, on est plusieurs à en avoir parlé récemment, et si on revient à notre petit monde du bikepacking, c'est de voir l'apparition de personnages qui insistent en disant « Oh, moi, je veux pas aller sur cette course, c'est trop loin, je veux pas prendre l'avion, alors je m'interdis de faire cette course. » Est-ce que c'est vraiment pertinent d'être dans cette réflexion finalement complètement binaire, noir ou blanc, et il n'y a pas de réflexion entre les deux, et si on prend ça dans une démarche un petit peu plus vaste et un petit peu plus large de prise de conscience générale, est-ce qu'on peut vraiment faire changer l'opinion publique en adoptant des points de vue aussi radicaux ?
Alors, je pense que ceux qui font ça en sont relativement convaincus et sont relativement sûrs de leur truc là-dessus. Moi, j'avoue que c'est vrai que plutôt que dire non, je ne vais pas faire ça, en fait, je pense qu'il ferait mieux de ils ont décidé de pas y aller pour une question d'engagement écologique ou quoi que ce soit. Eh ben, tu dis rien, tu y vas pas et tu laisses faire ceux qui y vont et puis tu prends pas position forcément là-dessus. Je trouverais ça un peu plus pertinent et un peu plus modeste et mesuré. Et après, c'est clair et net que on essaye. En fait, c'est beaucoup plus rassurant et c'est tout le temps beaucoup plus simple d'essayer de résumer le monde de manière binaire. Je prends l'avion, je prends pas l'avion, c'est bien, c'est mal. En fait, les problèmes, ils sont tous tellement plus complexes que ça que ça sert à rien de le résumer de la sorte et ça sert à rien de changer de la sorte. Si t'as un mode de vie, on va dire quasiment de moine et que t'as aucune émission quasiment toute l'année et que tu prends l'avion pour aller à une course sur l'année, tu vas avoir moins d'impact que si tu fais 50 000 km avec ta bagnole toute l'année pour aller à droite à gauche, te déplacer dans tous les sens et puis te dire après sur les réseaux sociaux faire un grand laïus en disant je vais pas assez de course pour engagement écologique. On a tendance à diaboliser l'avion et diaboliser ce truc-là et se concentrer que là-dessus et pas forcément regarder le reste. Ou avoir des partenariats avec des marques qui ont des empreintes carbone qui sont absolument effarantes et effrayantes et pas forcément se poser la question là-dessus et faire de la pub à travers les réseaux sociaux dans tous les sens qui sont très très polluants et puis après dire je vais pas faire l'avion. En fait, on a une espèce de dissonance cognitive qui se met en place où c'est super dur d'évaluer son impact de manière honnête et objectif et c'est beaucoup plus simple de dire je vais pas faire ça parce que il faut que j'ai pas d'impact et machin parce que ça évite d'avoir à regarder le reste. Donc c'est vrai que je pense qu'on gagnerait tous en tout cas à être un peu plus tu sais on disait tourner 6 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Je pense qu'on gagnerait tous à réfléchir un peu plus avant de communiquer à tout va et je pense que la communication positive est toujours plus efficace que une communication négative en disant il faut pas. On n'arrivera pas à fédérer autour du négatif, c'est impossible.
Toi, tu parles bien quand même, hein, Xavier. Je suis content de t'avoir croisé sur cette voie cyclable à Angers. On a bien rigolé. On n'a pas rigolé longtemps, mais en tout cas, le peu qu'on a fait, on a bien rigolé quand même.
Ouais, quand on s'est trouvé devant sans rien comprendre.
C'est quoi ton projet de recherche et de doctorat donc, que tu vas... c'était facile. Mais, mais c'est sûr que ça n'a pas duré longtemps parce qu'après, ça s'est mis à accélérer sévère devant. Ton projet de doctorat, c'était quoi ?
C'est le titre est un peu pompeux, c'est l'alpinisme face aux nouveaux risques d'origine glaciaire et périglaciaire. L'idée, c'est d'étudier un peu différents phénomènes en haute montagne qui ont assez peu été étudiés jusque-là. C'est-à-dire, en fait, il y a des couvertures glaciaires, il y a des glaciers suspendus qui sont dans des faces souvent très très raides, qui ont assez peu été étudiés, qui sont très impactés par le changement climatique, mais surtout qui peuvent présenter des gros risques pour la pratique. Donc c'est d'un point de vue ce qu'on appelle géomorphologique et glaciologique, c'est d'étudier ça. Et après il y a un gros volet de sociaux justement d'étudier un peu justement ce que tu dis là, les changements de mentalité par rapport à l'activité de l'alpinisme, comment les pratiquants se placent justement pour avoir comment est-ce qu'ils le vivent, comment est-ce qu'ils ressentent, comment est-ce qu'ils perçoivent un peu ces changements obligatoires on va dire de pratique et ces changements un peu de mentalité. Donc ça veut dire que réfléchir à peut-être que le fait de plus prendre l'avion, comment est-ce qu'ils le perçoivent ? Est-ce qu'ils se mettent dans des biais cognitifs ? Est-ce qu'ils sont essaient d'être très objectifs par rapport à ça ? Comment est-ce que on perçoit un peu justement des fois le fait qu'il y ait de la communication qui soit faite autour du changement climatique, qu'il y ait des nouveaux outils qui puissent apparaître pour aider à gérer les risques qui sont liés au changement climatique ? Voilà, comprendre un peu tous ces trucs-là. Est-ce qu'il y a de la défiance ? Est-ce que il y a de l'empathie ? Est-ce qu'il y a de la joie ? Est-ce qu'il y a de la tristesse ? Voilà, un peu tout ça.
Et donc là, actuellement, si tu devais dresser un portrait robot je sais que c'est très vaste comme question et que c'est très vaste comme milieu, mais si tu devais dresser un portrait robot du milieu de l'alpinisme, disons entre Albertville, Moutier et Chamonix, quelle est un petit peu l'ambiance générale de ces milieux face au changement ? Est-ce que, comme tu le dis, il y a de la défiance ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience ? Est-ce qu'il y a un niveau d'alarmisme maximal ? Est-ce qu'il y a du rien à foutre ? C'est notre business, comment on va faire ? Quelle est l'ambiance ?
Alors, ce qu'il faut comprendre par rapport à la haute montagne et à l'alpinisme, c'est que le changement climatique, il est 2 fois plus rapide en haute montagne que dans les autres milieux. En gros, les températures, elles montent beaucoup plus vite. Il y a différents phénomènes qui sont liés à ça, mais notamment le fait que les glaciers reculent. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans en détail. Ce qui se passe en tout cas, c'est que les milieux de haute montagne, ils sont beaucoup beaucoup plus affectés que le reste des milieux. On voit les effets du changement climatique de manière très très visuelle, même d'une année sur l'autre. Et du coup, on le voit depuis une vingtaine d'années. La canicule de 2003, ça a vraiment été un marqueur. Et les premières années où ça a commencé à prendre conscience. En 2005, il y a le pilier Bonatti au Dru, dans la face ouest des Drus, là, un sommet très connu, et une face très connue qui est tombée. C'est 5 fois le volume de l'Arc de Triomphe qui s'est cassé la gueule à ce moment-là. Donc ça a vraiment marqué durablement et depuis longtemps, donc depuis une vingtaine d'années, les pratiquants et la pratique. Donc maintenant, je pense qu'on commence à avoir passé un peu la phase de stupeur, de se dire il y a quelque chose qui change et il faut qu'on l'accepte. On rentre un peu justement dans une nouvelle phase où en fait, eh ben, il commence à y avoir différentes réactions par rapport à ça. Il y a des gens qui vont plutôt avoir tendance à se dire, ben, il faut que je change et il faut absolument que je le fasse. Il y en a qui, dans ma pratique, pour limiter les effets, il y en a qui vont se dire, je n'y vais plus parce que, en gros, ça me fait trop mal de voir ça et ça me fait trop peur les nouveaux risques liés à ça, donc je fais plus d'alpinisme. Et après, il y a un peu ce qu'on peut appeler un sentiment ou ouais, un peu de défiance. Ou en gros, c'est oui, bah en même temps, ça a toujours changé et ça change depuis 20 ans et on arrive à s'adapter et on arrivera encore largement à s'adapter. Donc, c'est un peu les trois possibilités par rapport à ça. Je dirais que ce qu'il faut réussir à composer, en fait, c'est
est-ce
à
que,
faire...
Xavier, je te coupe. Est-ce que tu peux reprendre les trois types de réactions? Parce qu'à ce moment-là, ta connexion n'a pas très bien fonctionné et ça a été un petit peu brouillé. Est-ce que tu peux reprendre? Ça n'a pas été clair, s'il te plaît.
Je vais reprendre tout de suite. Du coup, je disais, ouais, il y a trois types de réactions. Il y a la première réaction, ça va être les gens qui vont se dire « il faut absolument que je change ma pratique pour limiter mon impact au maximum et… » atténuer, on va dire, les effets de ma pratique sur le changement sur le milieu lié au changement climatique. Donc, par exemple, moins prendre la voiture, essayer de prendre le vélo au maximum pour aller en haute montagne et plus du tout quasiment utiliser sa voiture, des choses comme ça, plus voyager. Après, il y a un deuxième sentiment, c'est plutôt celui de dire ça me fait trop peur, ça bouge trop et je ne veux plus mettre les pieds en haute montagne parce que justement je trouve que les effets sont trop significatifs et le risque est trop important. Et le troisième effet, c'est plutôt justement de dire ça a toujours changé, on s'est toujours adapté et on continue à le faire et on continuera à le faire et ça ira très très bien comme ça. Et ça, c'est ce troisième là, c'est plus ce qu'on pourrait qualifier un peu de défiance par rapport à ces changements. Parce que justement, ça va être plutôt l'effet de dire vous nous bassinez un peu avec le changement climatique. Maintenant, on continue à faire nos trucs, soit as usual, soit en s'adaptant comme on peut, mais faut pas trop changer. Et on voit un peu ces trois-là qui essaient de se mêler et les gens qui changent de l'un à l'autre selon les perceptions, selon les endroits, selon les choses. Et on voit que c'est pas un long fleuve tranquille et qu'il y a plein de perceptions très très différentes et plein de petits changements assez différents quoi.
Ouais, j'ai un petit blanc là, je ferai une coupure au montage. Il y a un petit décalage entre nous deux. Il y a un long décalage de quelques secondes. Quand j'ai fini de parler, je te regarde et ça, j'attends 5 secondes avant que tu te mettes à parler. C'est hyper bizarre. Je ferai un montage à ce moment-là. Mais c'est assez étonnant.
Ça fait pareil de mon côté.
Et par rapport à... Parce que là, on parle du... Très bien. Là, on parle des professionnels de la haute montagne, mais le grand public, est-ce qu'il y a une prise de conscience du grand public qui vient fréquenter la montagne, notamment les hordes de touristes qui viennent monter, en tout cas qui essayent de monter le Mont Blanc en claquette chaque été. Est-ce qu'il y a un changement de discours par rapport à ça?
Oui, je pense que globalement, l'été 2022, ça a servi quand même de prise de conscience un peu générale par rapport aux impacts du changement climatique. Et je pense qu'il y a un peu une différence là-dessus. Typiquement, les hordes de touristes, c'est assez médiatisé, par exemple, le Mont Blanc, et on a tendance à voir un peu ces hordes de touristes et à les imaginer en permanence. La réalité, elle est quand même un peu plus complexe et il y a moins ça quand même. Je pense que tout ce qui a été fait jusque-là, ça a quand même permis de sensibiliser un peu à ces changements et on a moins ce côté un peu parc d'attractions et tourisme de masse dans ces lieux-là, complètement déconnectés par moment. Donc je pense que là-dessus, on a quand même il y a du très positif et il y a des choses qui bougent quand même globalement. Après, tu vois, par exemple, j'étais avec TF1, là, on a fait un tournage pour le 20h de TF1 il y a un petit mois, et il y a le sujet qui est sorti là. C'est sûr qu'on est encore dans la constatation du retrait glaciaire, du « ça change énormément, ça nous fait peur, ça nous impacte ». Je pense qu'il y a aussi besoin de ce truc-là pour l'instant, dans le sens où la plupart des gens vivent le changement climatique, pas de manière relativement concrète dans leur vie, tous les jours. Bah, tu ouvres le robinet, tu as encore de l'eau, vas au travail, tu as du travail, tu as de quoi manger, tu as tout ça. Et on n'est pas encore dans des changements profonds des milieux et des changements profonds de nos modes de vie et de nos habitudes. Ça, par exemple, nous en montagne, on l'a déjà beaucoup plus, dans le sens où y a des voies qui n'existent plus, il y a des endroits qui passent plus. C'est comme s'il y avait des routes en vélo ou des chemins de gravel qui étaient complètement ravagés par le changement climatique et qu'on ne pouvait plus les emprunter du tout et qui disparaissaient. Donc je pense qu'on a un peu plus cette avance-là et il faut aussi qu'on serve un peu, entre guillemets, d'exemple, même si c'est malheureux à dire, et qu'on n'hésite pas des fois à répéter un peu les choses et à dire oui, c'est une réalité le changement climatique. C'est un vrai bouleversement pour nos pratiques et malheureusement, c'est ce qui peut arriver à nos sociétés si on n'est pas capable de réfléchir un peu à tout ça en amont et de l'anticiper. On a encore la marge pour inverser un peu la tendance à travers des pratiques plus vertueuses, à travers, comme on disait, des réflexions et des choses comme ça. Mais il ne faut pas trop qu'on traîne et il faut qu'on le fasse collectivement.
Quand tu dis on a une petite marge de manœuvre, ça signifie quoi ?
Les scientifiques sont assez unanimes, c'est un arrêt quasi total de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est changer globalement la manière dont on a de gérer l'industrie, la manière dont on a de gérer les déplacements et la manière dont on a de gérer le travail. Il faudrait vraiment qu'on baisse là-dessus. Et pour ça, tu vois, typiquement, moi je suis convaincu que le vélo, on en a fait un objet très de performance, on va dire, mais je pense qu'il a aussi tout sa place comme moyen de déplacement individuel, comme au quotidien en fait, et je pense qu'on aurait tous beaucoup à gagner à pouvoir essayer d'en faire plus en vélo, et je pense que je prêche un convaincu, mais que en voiture au quotidien et dans tous les sens. Moi quand je vois des gens qui sur le plat en ville pour faire 2 km prennent leur voiture au lieu de prendre un vélo, je me dis qu'il y a encore pas mal de chemin à faire et pas mal de boulot à faire.
Tout à l'heure tu as mentionné les changements dans nos vies quotidiennes. Certes, la pratique des alpinistes est un petit peu chamboulée, mais ça reste quand même un pourcentage infime de la population mondiale. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des populations de montagne qui sont impactées et qui ont vu leur mode de vie radicalement changer ou modifié par les bouleversements en cours ?
Alors, à différentes échelles et à différentes mesures, la très très vaste, il y a déjà largement des endroits qui ont été impactés. Alors en France, je dirais qu'il y a déjà tous les moniteurs de ski. Alors on va commencer par le très léger et le presque un peu, on pourrait dire, futile, même si ça a quand même de l'importance. Quand même beaucoup de moniteurs de ski de moyenne altitude et de basse altitude qui voient un peu leur activité économique baisser dans tous les sens. De manière plus dramatique, les habitants de la Roya et de la Vésubie, l'énorme coulée de boue qu'il y avait eu dans leur vallée et le gros impact, ça avait fait un choc quand même assez important. En Suisse, il y avait eu la vallée de Bondo sous le Piz Saint-Gallo qui s'était fait dévaster par une coulée de boue liée justement à un gros écroulement rocheux. Donc ça, c'est pour des exemples comme ça. Et après, toutes les populations d'Asie et de haute montagne autour de l'Himalaya, où là, ils ont des gros, gros risques justement liés au retrait des glaciers et des grosses évolutions. Et après, à terme, le vrai souci, ça va être la ressource en eau. Alors, ça va affecter beaucoup de personnes sur l'Asie liées aux glaciers de l'Himalaya. Et nous, ça risque de nous affecter de manière quand même assez importante en Europe, que ça soit pour de l'eau potable, pour de la production agricole, avec toute l'eau, par exemple, de la vallée du Rhône, de la vallée du Danube, de ces zones-là, et même pour des zones comme les centrales nucléaires, qui sont refroidies, par exemple, dans la vallée du Rhône, par de l'eau qui arrive des glaciers. Et si on a moins d'eau en été et au printemps, dans des moments où on va avoir besoin peut-être plus d'électricité, par exemple, pour faire marcher la climatisation, là, on peut avoir des vrais gros problèmes dans les années à venir.
Qu'est-ce que ça te fait d'entendre, je ne sais pas si tu as suivi, mais là, il y a eu, dans le trail, il y a eu toute une, un mini bouleversement dans le trail, et on va y venir un petit peu au trail sur la blessure de Kilian Jornet et son obligation d'aller courir une petite course de merde en Suisse pour obtenir sa qualif à l'UTMB, et blessure qu'il a contractée suite à son expédition dans l'Himalaya. Est-ce que ça, selon toi, bah alors évidemment c'est difficile de donner un avis ou de juger ce qu'il fait, mais est-ce que ça a encore un sens d'aller en expédition dans l'Himalaya? Est-ce qu'il y a encore des choses à y découvrir? Est-ce qu'il y a encore des, entre guillemets, des choses à y voir? En gros, en 2023, est-ce que ça a encore un sens d'aller dans l'Himalaya?
Pour moi, ça a encore un sens et ça a encore une pertinence, dans le sens où c'est des voyages qui sont absolument incroyables. Tu découvres d'autres cultures, tu rencontres des gens qui sont exceptionnels là-bas et qui sont vraiment très très sympas. Et je trouve que ouais, ça a un sens qui est vraiment génial, dans le sens où on prend le temps. Enfin, ça a du sens si on prend le temps de rencontrer des gens, de discuter, d'apprendre des choses, de rencontrer des. Si on y va juste, par exemple, le plus vite possible pour péter un record et puis revenir et puis avoir rencontré personne, discuté avec personne, croisé personne, on s'est mis dans une bulle pour pas tomber malade et puis on fait juste de la consommation et du tourisme, je trouve que ça perd un peu de son sens. Par contre, si on y va, ben ouais, pour rencontrer d'autres populations, vivre des aventures et des moments assez inoubliables, et ouais, il y a vraiment des choses et des gens incroyables à rencontrer là-bas, des choses à vivre, ça nous permet aussi de comprendre pas mal de choses, je trouve, d'aller dans ces endroits-là. Ben, par exemple, il y a une perception qui est très très différente par rapport à la nôtre du changement climatique, dans le sens où, ben, tu vois, par exemple, le Népal, c'est un des pays les plus pauvres au monde. Eux, ils te le disent clairement, c'est leur seul but, c'est de survivre. Et la question climatique, ils en ont rien à faire du tout. Ils veulent juste pouvoir manger à leur faim et puis vivre selon notre modèle. Et tu comprends que, ben, par exemple, on a véhiculé des valeurs, on a transmis des choses qui sont, ben, on le voit maintenant un peu limite, mais c'est un modèle qu'on a construit il y a 60 ans et qui maintenant porte ses fruits là-bas. Et du coup, on se rend compte de, on comprend quand même pas mal de choses, pas mal de changements. Et du coup, dans ce sens-là, ouais, le voyage, ça forme et ça ouvre l'esprit de manière incroyable. Après, si on fait le voyage, je trouve que faire un voyage juste pour de la perf et en le faisant de manière très auto-centrée, moi, je suis moins partisan de ça et je trouve qu'on perd un peu de ce côté-là, quoi.
Il y a quand même un petit effet pervers dans ce que tu viens de dire, parce que quand j'entendais des gens dire « je prends plus l'avion, je voyage autour de chez moi et je découvre des choses incroyables autour de chez moi, en bas de chez moi, en restant en France », j'avoue que j'ai toujours été un petit peu perplexe, parce que comme tu viens de le dire, ce qui fait la magie et le plaisir d'un voyage, c'est aussi de se dire « ah tiens, putain, je suis pas chez moi, y a pas, c'est pas le même mode de vie, c'est pas la même langue, c'est pas la même nourriture ». Et dans ce que tu viens de décrire, il y a un petit effet pervers, c'est que pour prendre conscience quasiment des effets du changement climatique et des effets un petit peu négatifs de notre mode de vie, eh ben, il faut aussi continuer à voyager pour aller le voir et aller découvrir une autre perspective et une autre perception.
Ben, c'est exactement ce qu'on disait avant, et c'est en ça que moi je ne suis pas partisan de dire « ah, je ne prends plus l'avion et il ne faut plus prendre l'avion », c'est que en fait… C'est tellement complexe et tellement varié qu'en fait, on ne peut pas y répondre à ces questions de changement climatique par des réponses binaires et simples de « je ne prends plus l'avion, donc c'est réglé et c'est tout bon ». Donc, c'est un peu le truc justement où il faut réussir à rentrer un peu dans une composition au milieu de tout ça, réussir à trouver un peu à chaque fois les limites. Et c'est des curseurs à placer qui sont vraiment pas faciles et qui sont vraiment pas simples justement à trouver. Et je trouve que ouais, c'est un peu… Faut réussir à composer dans tout ça et c'est vraiment, ça sera jamais des réponses simples à des problèmes complexes, en fait, ça n'existe pas, ça.
Toujours dans la catégorie trail et UTMB, est-ce que ça a encore un sens pour une épreuve, selon toi, une épreuve comme l'UTMB qui essaye de se racheter une petite conscience verte, de continuer à faire venir là aussi des hordes de coureurs, de revendiquer un impact minimal, mais de continuer à imposer des critères de sélection toujours plus drastiques qui obligent les coureurs à galoper de course en course pour obtenir leurs points?
Ben, alors là, pour le coup, je pense que l'UTMB, à mon sens en tout cas, c'est devenu une machine commerciale, et plutôt qu'attaquer les pratiques individuelles et les pratiques personnelles comme « je prends plus l'avion pour aller en voyage là ou là », je pense qu'il faudrait plutôt attaquer les pratiques commerciales et attaquer un peu justement tous ces grands groupes et ces espèces d'impositions justement, bah comme tu le dis, à courir à droite, courir à gauche pour aller avoir assez de points. Et puis en fait, le fond de l'histoire, c'est quand même de réussir à faire suffisamment d'argent et puis à faire vivre toute une économie autour de ça. Donc je pense que c'est vrai que c'est pour ça, je suis un peu plus radical, je dirais. dans le sens où déjà c'est pas forcément trop ma tasse de thé. Je trouve qu'on perd quand même beaucoup de choses à travers ces courses-là. On perd de la liberté d'aller à droite, d'aller à gauche, de faire un peu comme on a envie. C'est un truc qui m'avait frappé quand je faisais la French Divide, justement. J'ai été disqualifié à la fin du parcours parce que j'étais allé me balader à droite et à gauche pour voir des points de vue qui n'étaient pas sur le parcours et que j'avais envie d'aller voir quand même. Et du coup, je me suis dit, mais attends, mais en fait, c'est complètement con. Sur le coup, j'étais déçu et je me suis dit, mais attends, c'est complètement con. En fait, je suis allé me balader à droite et à gauche, voir des trucs sur le parcours qui me plaisaient. Et il me disqualifie pour ça, mais en fait, ça va pas gâcher mon aventure et ça va pas gâcher le fait que j'ai passé 10 jours de vélo qui était exceptionnel. Et ben, votre tracker, vous le mettez bien où je pense et puis je l'éteins et puis je vais continuer ma balade et puis je vais aller finir mon truc tout seul dans mon coin, quoi.
Xavier, en une phrase, tu as résumé pourquoi je continue à te suivre 2 ans et demi après et pourquoi on a autant rigolé à vélo il y a 2 ans et demi. Parce que c'est exactement, même si je partage pas totalement cette vision, parce que la course c'est la course et faut aussi savoir pourquoi on vient. Mais c'est vrai que de temps en temps on peut s'autoriser une petite variation et être disqualifié pour des trucs comme ça. En plus on le voit actuellement avec des disqualifications vaguement abusives sur des épreuves ultra. C'est quand même assez rigolo, mais j'en déduis que toi on ne te reverra jamais en bikepacking entre guillemets compétitif.
Non, ouais, du coup moi ça a été vraiment le déclic et j'en ai refait pas mal et j'en referai pas en compétition pour ça. J'ai suivi un peu ce qui s'est passé à la Transcontinentale et c'est vrai que, alors je les connais pas et quand je vois qu'ils écrivent justement qu'ils sont super déçus et qu'ils sont tout ça, je me dis que c'est quand même dommage que des gens qui du coup ont pas fait font pas la course, sont dans l'organisation mais font pas la course, arrive à avoir un pouvoir aussi important que ça. En fait, t'as des mecs qui ont passé 10 jours à rouler là comme des fous, qui se sont éclatés, et du coup t'arrives à les décevoir de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont vécu juste pour une décision un peu en plus qui a priori paraît complètement absurde. Je me dis putain, t'as un pouvoir d'influence sur l'aventure que vivent les gens qui est énorme, et c'est triste quoi, parce que en fait le fond de l'histoire il est pas sur le fait qu'ils aient respecté les règles ou pas, ils viennent de vivre 10 jours de fou, ils sont trop contents de leur truc, bah vas-y, enfin c'est quand même dommage de leur dire, non, ça compte pas, c'est nul ce que t'as fait. Enfin, c'est vrai que je trouve ça un peu dommage. Ouais.
Est-ce que dans la réflexion globale que tu aimerais voir être menée, est-ce que finalement il n'y aurait pas une petite réappropriation individuelle des pratiques et se détourner progressivement des organisations?
Alors, se détourner des organisations, je sais pas, dans le sens où je trouve qu'il y a quand même des trucs très très positifs qui en sortent à chaque fois. Il y a quelques années, je t'aurais dit oui. Et maintenant, tu vois, typiquement, Gravel of Legend, on se rencontre là-bas et ça permet de faire plein de rencontres super et ça amène à des choses qui sont super positives. Donc, je pense que c'est pas forcément se détourner des organisations. Je pense que c'est une chose qui est bien. C'est réussir à trouver, en fait, au-delà de l'organisation, des motivations et une source de satisfaction et de plaisir, quoi qu'il en soit et quoi qu'il en coûte. Ça veut dire que ça soit une partie intégrante de l'aventure et une partie intégrante de la chose sympa, mais que ça soit pas forcément l'objectif absolu et l'unique moyen d'être heureux de ce qu'on a fait. Ça veut dire que c'est la cerise sur le gâteau, en gros, quoi. Le fait qu'il y ait une course, une organisation, un podium, ça soit vraiment la cerise sur le gâteau, mais qu'on vienne chercher du dépaysement, du plaisir, du voyage, de plein d'autres choses. Ça peut être plein de choses, ce qu'on veut, mais que ça soit pas l'unique moyen d'être heureux de ce qu'on a fait, je pense.
Tout à l'heure, tu as dit, pour rationaliser un petit peu notre pratique, il faut se demander ce qu'on y trouve, ce que l'on y gagne et ce que l'on perd en n'y allant pas. Donc évidemment, cette subtile balance, je vais à un événement, socialement et humainement, qu'est-ce que j'en retire? Et si je n'y vais pas, qu'est-ce que l'on m'arrache et qu'est-ce que j'y perds? Est-ce à l'aube aussi, avec cette réflexion, d'une forme supplémentaire d'égoïsme, en se disant, j'en retire trop de bénéfices d'un point de vue social, humain, personnel, et merde au reste? Est-ce que ça suffit comme réflexion, cette balance?
Ça peut être complètement la dérive et ça peut être justement complètement l'abus dans lequel on peut tomber là-dessus. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, il n'y aura jamais un modèle qui sera absolument parfait et qui sera absolument infaillible. Moi, je pense que ça n'existera pas. On va peut-être créer une nouvelle manière de réfléchir, des nouveaux critères un peu, on va dire, de réflexion et d'acceptation ou non d'une aventure. mais on n'en fera jamais quelque chose de parfait parce qu'encore une fois, c'est tellement complexe que ça marchera pendant un moment dans un concept-là. Et puis après, ça sera forcément remis en cause par d'autres et puis on réinventera autre chose et on changera et ça sera une perpétuelle évolution comme ça. Donc je pense que, comme tu le dis, en fait, ça peut tomber, on peut à chaque fois, en fait, tomber dans des dérives pas possibles. Et les philosophes grecs, ils en parlaient déjà, ils disaient qu'il fallait de la modération dans quoi qu'on fasse. Donc bah, je pense que ça va être le même principe, il va falloir qu'on arrive à inventer un autre modèle, réfléchir autrement, mais pas le pousser à l'extrême et peut-être juste réussir à trouver un peu une modération au milieu de tout ça. Et puis après, bah, ça changera encore et puis il faudra essayer de re-être mesuré là-dedans. Et je pense que ça sera plutôt comme ça qu'il faudra voir les choses.
Toi, au quotidien, tout à l'heure, tu me disais, tu nous parlais de ton projet, enfin, pas de ton projet, de ton sujet de doctorat, qui est globalement d'aller étudier des trucs qui se passent à haute altitude. Au quotidien, comment on fait pour étudier des trucs très hauts ? Je schématise à l'extrême. Comment on fait pour étudier des glaciers ou des blocs très très hauts ? Ça veut dire que tu dois quand même y aller encore pas mal ?
Je réponds. Attends, je rallume la lumière, je te réponds.
Me revoilà. Vous vous rendez compte, là, il est 14h51 à Chartres, il fait encore jour, mais par contre à Albertville, c'est déjà la nuit.
Ouais, bah là, 14h50. C'est bien l'automne en ce moment-là. Aujourd'hui, là, c'est bien l'automne. Pour répondre à ta question, du coup, ben, ouais. Là-dessus, encore une fois, il y a...
Albertville, ça va.
Ouais, du coup,
ça pourrait être Moutier. Moutier.
Moutier, il n'y a pas de soleil, mais n'importe quand dans la journée ni dans la nuit.
Hein, Moutier. Ah, c'est horrible. Passer à Moutier, c'est un petit peu l'inverse de Harry Potter et de Voldemort. Ça t'arrache à un morceau de ton âme de passer à Moutier.
Ouais, c'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça. Bon, on n'y fait que passer, hein.
Ouais.
Donc, ouais, pour répondre à ta question, par rapport à ça, il n'y a pas forcément de consensus encore sur les relevés et sur la manière de faire de la science. Alors, il y a des gens qui continuent à estimer que la science et la pratique scientifique est au-dessus un peu de tout, on va dire, et que peu importe l'impact, on va peut-être pouvoir aller en hélicoptère, faire des mesures, aller faire des choses comme ça. Moi, je suis plutôt partisan de me dire que si je vais étudier les effets du changement climatique sur les milieux de haute montagne, j'essaie de limiter au maximum mon impact pour justement ben pas trop intervenir là-dessus et pas trop avoir une action importante. Donc de ce fait, ben tu vois, typiquement, on a fait des mesures l'an passé sous le sommet du Mont Blanc là sur l'arête des Bosses. Et ben on est monté en ski avec les copains, on avait le matériel sur le dos et après on est redescendu en parapente. Voilà, c'est des approches qui sont pas toujours possibles, pas toujours réalisables. Ça va, encore une fois, je vais pas avoir la position, moi, de dire il faut plus faire ça ou faut faire que ça ou machin. Moi, c'est vrai que dans mon cas, j'essaie de me dire, si je dois aller en haute montagne pour faire des relevés et pour faire de la science, j'essaie de limiter au maximum mon impact. Et pour ça, ça passe par le fait de, déjà, on prend la voiture, c'est déjà pas mal. Mais après, par contre, pour le déplacement en montagne, on le fait par nos propres moyens en essayant de limiter justement nos impacts.
Alors, quand tu parles de... Moi, ce que je voulais savoir, en fait, c'est comment tu fais, vraiment, mais de manière très pratique et concrète. Je me doutais que tu allais parler un petit peu de déplacement en hélicoptère, mais je voudrais surtout savoir comment tu fais, en fait. C'est quoi le boulot d'un chercheur, d'un doctorant qui bosse sur des trucs en altitude ?
Alors, là-dessus, il y a deux choses. Alors, dans ce cas, moi, il y a un volet, donc, comme je te disais, très sociaux, où là, je vais faire beaucoup d'entretiens ou d'enquêtes par questionnaire auprès, ça dépend des populations cibles que je cherche. Et après, sur le terrain, on utilise différentes choses. On va utiliser de plus en plus toutes les données satellites, parce qu'on a quand même beaucoup de données satellites maintenant qui nous permettent, par exemple, de comparer des retraits glaciaires, de comparer des évolutions. Après, on utilise de plus en plus quand même de manière générale les drones pour cartographier des zones. On va utiliser des drones pour faire ce qu'on appelle la photogrammétrie. On prend plein de photos d'une même zone en fait, et après derrière, on l'assemble, on en fait des modèles en 3D qu'on arrive à transformer en modèles numériques de terrain, et ça nous permet d'avoir des données de pente, des données d'évolution, voilà. Et d'une année sur l'autre, on arrive à comparer comme ça. Sur les glaciers suspendus, on fait pas mal de datation aussi, donc on va faire des carottes de glace qu'on va justement ramener et qu'on va pouvoir dater pour voir un peu différentes choses, soit des âges de glace pour voir un peu à quelle période ça a été fait, comment ça évolue, mais on peut obtenir aussi plein d'autres données grâce à ça. Voilà, ça va être un peu les principaux moyens, quoi. Soit de la photogrammétrie, donc des modèles en trois dimensions, soit de l'utilisation de données satellites pour faire de l'information géographique, soit sinon des carottages pour avoir différentes infos sur le milieu.
Si on parlait un petit peu des théories du complot sur le changement climatique, parce que bon, on pourrait très bien aussi se dire que tout ça, c'est faux finalement, que c'est uniquement pour préserver des intérêts financiers et qu'on nous ment. Xavier, est-ce que tu nous mens?
Ouais,
est-ce que tu es un membre du complot? Est-ce qu'en fait tu fais partie du clan des oppresseurs?
Ouais, bah moi je suis décrié par Donald.
C'est quoi ta réaction?
Ben, ma réaction par rapport à tout ça, c'est plutôt de me dire que je pense qu'il y a ça amène à beaucoup de peur et à beaucoup d'incompréhension. Et donc forcément, ça peut être encore une fois une solution facile pour trouver une réponse simple à un problème complexe. De dire non, mais ça n'existe pas. De toute façon, c'est juste on nous ment. Et il y a un chercheur qui s'appelle Jacques Rancière qui a beaucoup travaillé là-dessus sur le principe d'inégalité des intelligences. Et notamment du coup sur le complotisme. On a construit un peu toute notre société sur une forme d'inégalité des intelligences en partant du principe qu'il y en avait qui étaient plus intelligents que d'autres et plus à même de comprendre justement ce qui se passe que d'autres. Ça, c'est comment ça a été construit. Et à partir de là, en fait, les phénomènes de complotisme et de réaction à ça, en fait, c'est le schéma inverse de cette construction de société où du coup, bah, c'est super facile de dire... En gros, moi je suis plus intelligent que vous, j'ai compris que vous essayez de nous berner, et donc en gros ce que vous nous dites c'est faux. Donc à la base c'est un truc qui a été inventé, on va dire, par le pouvoir pour généraliser comme ça, il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres, donc forcément c'est à eux de diriger et puis de contrôler la société. Donc forcément en réaction, bah il y a le phénomène inverse où bah il y a des gens qui disent ils nous prennent pour des cons en gros, mais nous on est plus intelligents qu'eux, donc on sait qu'ils sont en train de nous mentir et que tout ça, c'est un complot. Donc, en fait, ce phénomène-là d'inégalité des intelligences, je pense que c'est tout un phénomène, et du coup, de complotisme, c'est tout un phénomène qui a été construit par la société et qu'encore une fois, en rentrant dans une pratique un peu composée et intelligente et en disant aux gens, pas vous êtes bêtes et il faut qu'on décide pour vous, mais vous pouvez être tout à fait capable de réfléchir par vous-même et de comprendre ce qui se passe, bah, ils seront à même de l'intégrer et puis de le prendre en compte là-dedans. Donc à ceux qui nous disent oui non mais c'est juste un phénomène on va dire financier et il y a pas de changement climatique et c'est juste pour nous maintenir là-dedans, ben moi j'aimerais bien les emmener en montagne et qu'ils viennent avec moi et leur dire bah regarde comme ça change, regarde comme ça évolue et après ben si ça te tient à cœur, comment est-ce que tu fais pour vivre avec ça et réfléchis à ta pratique et tu trouveras les réponses toi-même.
Et le fait que la Terre est plate, on peut en parler deux minutes ou pas?
Bah c'est vachement pratique pour le vélo.
C'est vrai, hein. C'est vrai que c'est quand même assez balèze, hein. Est-ce que tu as vu, j'en avais déjà parlé un petit peu ici une fois, mais je suis à chaque fois atterré quand j'y pense et je le regarde régulièrement parce que c'est drôle. Je me demande si c'est pas une parodie de documentaire. Un documentaire sur Netflix, justement, sur les partisans de la Terre plate. Et il y a plusieurs moments clés dans le documentaire où, notamment le début où le mec dit bah, si la Terre était ronde, on verrait pas avec la courbure de la Terre. Et comme on la voit, c'est bien la preuve que la Terre est plate. Je trouve ça grandiose comme raisonnement.
Ah, mais moi, cet hiver, là, j'ai bossé un peu avec des moniteurs de ski des Trois-Vallées et on était sur ce niveau de réflexion-là. Hein. C'est vrai que c'est assez. Des fois, ça laisse un peu songeur et perplexe. Hein.
Comme quoi, tu peux préciser, donner un exemple?
J'ai souvenir d'une journée avec des moniteurs de ski où on avait plusieurs clients et on encadrait à plusieurs. Et pendant toute la journée, j'ai eu le droit à toutes les théories du complot possibles et imaginables avec tous les argumentaires qui vont bien. Donc ça a commencé par le World Trade Center, ça a suivi par la Lune. Non, ça a commencé par le changement climatique, c'est faux. Après, ça a suivi par le World Trade Center. Après, ça a suivi à la Lune. Après, ils m'ont parlé de Lula et Bolsonaro, de Trump et Biden, de eux, ils savent. Et en fait, à chaque fois, c'était le même principe. C'était nous, on sait mieux que les autres et les autres, vous savez pas, en fait. Et en gros, vous êtes des moutons de suivre. Et c'est vrai que c'était assez, étonnant comme journée.
Mais j'avais vu ça dans le journal, j'avais vu un truc passer, parce que je collecte plein d'articles avec mon fil RSS, et j'ai vu passer un truc, ouais, c'était un moniteur pète les plombs en pleine montagne et bute tous ses clients à coups de piolet. C'était toi?
Non, c'était pas moi.
Ah, non, là, c'était pas ce jour-là alors. Bon, mon petit Xavier, Certainement. Il me semble qu'on a fait le tour. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter ? Est-ce que, parce que je l'ai précisé dans l'introduction, je n'ai qu'une vision très très courte et limitée de ce que tu fais, de ce dont tu peux parler et des thématiques que tu peux aborder. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais apporter de plus ?
Bon, je pense qu'on a déjà pas mal discuté autour de ces questions-là, on a déjà pas mal échangé. Après, c'est sûr qu'on peut toujours rentrer plus en détail, discuter, échanger beaucoup plus autour de ces questions-là. Moi, si tu me lâches, je peux t'en parler pendant des heures et des heures. Mais je pense qu'on a déjà bien abordé cette question. Et du coup, c'est voilà, je pense qu'il faut croire un peu en ses rêves aussi, continuer à avoir des rêves au milieu de tout ça. Et puis, ouais, la solution de réfléchir un peu à l'impact qu'on a, c'est déjà un moyen qui est super. Et dans tout ça, je pense que le vélo, ça a toute sa place et ça a une place qui est complètement centrale dans les évolutions de nos sociétés et qu'il faut rien lâcher là-dessus. Et le gravel, pour ça, c'est un super bon moyen et c'est vraiment top.
Et tu me mets ça à la fin. Le gravel, c'est vraiment top. Bon, d'accord. Est-ce que tu peux développer ?
Ben, c'est encore une fois dans cette vision un peu, peut-être que le vélo a été vachement développé sur la vision très sportive et très performatrice de l'activité avec des vélos qui sont de moins en moins, on va dire, polyvalents et de plus en plus spécifiques et qui sont surtout pas forcément accessibles à tout le monde. Donc, je pense que l'idée, ça peut être encore une fois que le gravel, ça permet de rendre à nouveau cette activité-là accessible et abordable par beaucoup de monde. Le VTT, c'est devenu souvent très très technique et très très complexe. Le vélo de route, ça devient très très performatif. Et le gravel, en se mettant entre les deux de tout ça, justement, si on n'en fait pas à nouveau qu'une machine de performance et qu'une machine à faire la compétition, ça peut redevenir un truc qui permet à des gens de saisir du vélo, de saisir du déplacement, de saisir du plaisir et de la joie de se balader en vélo, de découvrir des paysages, de rencontrer du monde. Et ça, c'est pour moi un truc qui me tient à cœur et qui me plaît vraiment. Je le vois avec ma maman, hein, elle voulait plus du tout faire de vélo, plus du tout faire de vélo de route parce qu'elle était pas bien, elle avait peur sur le vélo. Et là, je lui ai trouvé un gravel et elle s'éclate avec, elle trouve ça trop bien, elle arrive à se déplacer, à faire plein de trucs, à redécouvrir plein de choses. Et on peut en faire justement plein de trucs du gravel, que ça soit ben se tirer la bourre avec les copains, aller faire la course, mais aussi ben prendre le temps de rouler tranquillement, d'aller découvrir des paysages, d'aller découvrir des gens, rencontrer des choses, voir ce qui nous entoure. Et ça, je pense que il faut qu'on continue à l'aborder dans cette vision un peu complexe et multiple, et pas que sous un seul prisme de performance. Et pour ça, ça peut vraiment être un truc qui est chouette et qui est sympa.
Tu vois, c'est pour ça, t'es énervant, Xavier. Tu parles bien, c'est chiant. Je vais te laisser pour ta minute de solitude. Je te retrouve après. Merci, Xavier.
Avec plaisir.
Allez, salut. Continue. Et tu prends le temps qu'il faut, hein. Si tu veux faire 2 minutes, 3 minutes, fais ce que t'as à faire.
Ok, pas de souci.
Eh, Xavier, c'est l'heure de la minute de solitude, là. Faut que tu parles maintenant, mon garçon.
Et tu veux que je te dise quoi ? Tu veux que je continue à te parler de moi ?
C'est pas fini. Allez. Ah, mais tu dis ce que tu veux maintenant.
Je dis ce que je veux.
Mais de vélo, de ce que tu veux, de liberté, de rêve. Vas-y.
Eh ben, moi, j'aimerais beaucoup refaire les 7 majeurs à la journée là en vélo. Et je suis en train de vraiment plus réfléchir à ça. Là, je pense que cet automne, là, j'ai commencé à pas mal rerouler. Et de faire le guide, c'est vraiment bien pour ça parce qu'on marche un peu tous les jours avec les clients en montagne et du coup, ça nous fait l'entraînement en endurance fondamentale, c'est vraiment chouette. Du coup, j'ai commencé à me réentraîner un peu là-dessus, donc je fais le guide et en plus, je vais rouler un peu en spécifique. Et je pense que cet automne, j'aimerais bien aller mettre un petit run là dans les 7 majeurs à la journée et puis aller me refaire un peu des grandes balades en vélo comme ça, hein, surtout qu'avec les couleurs d'automne. Quand j'avais fait la traversée là d'Albertville jusqu'à Sceaux en passant par le Mont Ventoux, ça m'avait vraiment plu. Là, parti le matin à 4h de nuit, j'avais pris la neige au col de Menet là au-dessus de Clèves. Et après j'avais basculé dans le sud et là je m'étais retrouvé dans le chaud et dans le sympa. Et j'avais fait une ascension du Ventoux par Malocène après 330 bornes, plein coucher de soleil en fin de journée. Et en haut du Ventoux, il y avait même du coup j'étais arrivé juste à la fin là. Il commençait à faire nuit, la route était gelée complet. Et ça avait fait un petit verglas. À la descente de l'autre côté, c'était sec, heureusement, parce que j'avais vraiment peur de me faire mal. Mais du coup, ça m'avait vraiment plu, cette histoire de voyage là à la journée, et de pouvoir faire une grande bambée sur l'automne avec ces couleurs-là. Donc je me dis que là, faire les 7 majeurs, ça peut être vraiment sympa à ce moment, de prendre le vélo là, commencer à partir, et puis lever de soleil sur le vélo, tu continues, tu roules toute la journée, tu fais le coucher de soleil, tu finis de nuit. Ça, c'est un truc qui me motive et qui me plaît sacrément. Je pense que j'ai dépassé ma minute.